Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouveau numéro d'Actuel et lui.
And friends. Friends.
Voilà. Ben oui.
Bon, y en a un qui suit pas trop. Mais
et puis il y en a une qui n'est pas arrivée. Donc,
donc voilà, bon, bah, on part bancal, mais on va y arriver.
Voilà, donc bonjour à tous. Bonjour d'abord les filles. Bonjour Aurélie, Anne-Marie.
Et coucou.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et alors bah, vos invités, parce que moi ma friend n'est pas encore arrivée, donc présentez.
Bah justement, dis-nous qui c'est, parce que comme c'est mystérieux.
Bah, c'est Caroline qu'on attend dans quelques instants.
Donc
Guillaume,
Caroline.
T'as pas d'amis.
C'est ça. C'est trop ça.
Bon, bah Anne-Marie, on a déjà entendu ton friend, tu nous en parles.
Voilà, bah, c'est Luc. Vous l'avez déjà entendu sur les ondes de 48 FM.
Ah oui, pas qu'une fois. Hein.
Bonsoir.
Et souvent, voilà.
Avec donc, sa nouvelle émission, mercredi sur deux,
c'est ça.
Lui tout seul.
Sniff, toi non plus, tu n'as pas d'amis,
finalement.
Oui, j'ai plein d'amis.
Ah, d'accord.
Et ça, c'est le mardi soir.
Okay. Et toi, Aurélie, donc, tu as qui comme ami?
Eh bien, alors, moi, j'ai demandé à Alain de revenir, parce que la dernière fois, il nous avait fait un festival de sport dans notre émission, et puis même envoyé spécial sur le Marvejol Monde en direct avec Guillaume.
Ah, ça, c'était
un... Bonsoir tout le monde.
Un grand événement sur 48 FM. Bien, mais on va attaquer cette émission.
Et alors, c'est toi, Guillaume, je crois, qui va débuter et cette
oui,
émission spéciale.
Effectivement, une fois n'est pas coutume.
Et tu vas nous faire une chronique.
Ben, on va parler de nourriture. On va parler.
Ah,
je crois que ça va être un. On va en parler aussi tout à l'heure.
Quelqu'un veut encore de la pizza.
Voilà. Et ben non, on va pas parler de pizza, mais de kebab. Et voilà.
Aussi diététique, je suppose.
Ah, on y reviendra sur le côté diététique. Mais bon, vous pourriez me demander pourquoi on parle
du kebab aujourd'hui.
Eh bien, parce que la BBC a annoncé le dimanche 27 octobre la mort de l'inventeur du doner kebab, Kadir Nurman, à l'âge de 80 ans. Mais en 2009, plusieurs sites d'information, dont Libération, avaient déjà annoncé la mort du père du sandwich à la renommée internationale en la personne d'un certain Mehmet Eygun. Sauf que le site Le Poste a affirmé ensuite en 2010 qu'il était toujours vivant, soulignant une confusion entre homonymes.
Donc c'est qu'il y a plein de pères du kebab ou c'est que...
Alors on y reviendra tout à l'heure en parlant un petit peu de justement, il y a trois inventeurs qui ont été retenus.
Moi je croyais que c'était grec.
Et ben voilà,
on a plein de questions.
Mais oui, vous avez plein de questions.
Mais commence par la définition et,
ben oui.
Et sors-nous ton ami Wikipédia.
Voilà, c'est le moment Wikipédia de la chronique avec la définition. Donc le terme kebab signifie grillade, viande grillée, et désigne différents plats à base de viande dans de nombreux pays, et en généralement fait partie des mondes ottomans et perses, dont l'Inde du Nord. Dans son utilisation francophone, comme dans d'autres langues occidentales, le terme utilisé seul désigne spécifiquement le sandwich fourré de viande grillée à la broche, ou doner kebab, on reviendra sur le terme doner kebab, ainsi que par extension le type de restaurant qui le sert. Parmi les équivalents les plus courants du terme doner kebab, le mot shawarma et ses variantes est utilisé au Moyen-Orient. Ces termes désignent tous soit la viande et son mode de préparation, soit le sandwich correspondant. Alors, en France, en Europe, le kebab est généralement un sandwich ou une galette composée de viande grillée à la broche, découpée en fines tranches, servie dans du pain avec des crudités, éventuellement des frites et une sauce. Et donc,
la sauce blanche pour moi.
Et voilà, mais justement, on va parler de la recette de la sauce blanche dans quelques instants, restez à l'antenne.
T'as encore faim, Luc ?
Ouais, toujours. Voilà.
Donc, le type de grillade utilisé pour les sandwichs est appelé en turc doner kebap ou brièvement doner, terme qui signifie grillade tournante. Il s'agit d'une pratique qui serait originaire d'Anatolie, connue depuis le Moyen-Âge, comme le rapporta le voyageur bourguignon Bertrandon de la Broquière lors de son voyage en 1431.
Vas-y, prononce ça. Dans le vieux français,
voilà.
1431.
Me firent les Turcs mangière chair rostie, ce soir qui n'estoie point cuite à moitié, à beau cope et la tranchant en rôtissant en la broche.
Moi, je demande toujours comme ça quand je vais chez Sade. Voilà.
Et donc, voilà, la viande est découpée en tranches de quelques millimètres d'épaisseur, empilée sur une broche verticale. Un système de résistance électrique ou de brûleur permet de faire cuire. Et ensuite, la viande est découpée verticalement en fines tranches. Voilà, différentes viandes peuvent être utilisées selon les coutumes de chaque pays, du mouton, du veau, de la dinde, du poulet, du porc. Voilà. Mais le porc, pas trop, ça dépend un petit peu des coins. Voilà, et le doner kebab est donc servi dans un pain rond turc, un pain entier ou un demi-pain, dans le cas du kebab classique, mais il est souvent aussi dans un durum ou une pita, voire dans une baguette. Il est notamment garni de salade verte, de tomates, d'oignons, bien que d'autres crudités puissent s'y ajouter. Et plusieurs sauces peuvent l'accompagner. L'une des plus courantes est donc la sauce blanche.
Oui, d'ailleurs, Luc parlait de sa sauce blanche.
Voilà, donc...
Et s'il veut la faire, Luc, comment il fait ?
Alors, comment fait-on la sauce blanche ?
Une idée, mais bon.
Comme ça, tu pourras la faire chez toi, Luc.
Absolument.
Tout seul.
Moi.
Il n'y a pas du tout ce qui vous fait rire. Hein.
Non, mais...
Mal barré pour la sauce blanche.
C'est pas sympa.
Et moi, pour une histoire de manche, là, il y a 15 jours, je me suis fait engueuler, hein. Là, vous remarquerez que j'ai rien fait pour... Bon, allez. Hein. Donc, le site marmiton.org, allons-y.
Un petit peu l'esprit mal tourné dans cette émission.
On propose la recette suivante. Il faut mélanger 2 yaourts à la grecque, 2 cuillères à café de mayonnaise, un demi-citron pressé, une pincée de piment doux, une pincée de cumin, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'échalotes finement émincées et une cuillère à café d'herbes de Provence, de persil et de menthe, du sel et du poivre. Ensuite, il faut diluer un peu avec le lait de manière à obtenir la consistance désirée et goûter pour rectifier l'assaisonnement.
Oui. C'est tout important de goûter.
Oui, toujours. Très important.
Voilà, on a commencé avec un sujet totalement anodin, à perdre tout le monde.
Bon, après, une fois qu'on
c'est
a...
C'est pas anodin, la sauce blanche. Pas anodin du tout.
Bon, tu as pour la faire maintenant.
Oui, bien sûr. Tout seul.
Justement, Luc se demandait tout à l'heure si c'était grec, le kebab.
Et oui, alors...
Tu t'en poses des questions, Luc.
Je me pose énormément de questions.
Effectivement.
Un bouillonnement intellectuel terrible.
On parle de sandwich grec, souvent utilisé donc, dans les villes où les Grecs se sont implantés en premier. Et en Grèce, par ailleurs, une recette assez similaire s'appelle le gyros. Et enfin, le mot arabe pour cette opération est shawarma, provenant du turc, mouvement tournant. Et il n'est pas rare de trouver aussi shawarma ou shawarma. Les boutiques de kebab d'origine turque et syrienne installées en Belgique disent également durum pita. Et le sandwich est alors entouré dans du pain sans levain. Voilà. Donc les restaurants proposant des kebabs à emporter sont devenus communs dans beaucoup de régions européennes, principalement à partir des années 90, d'abord dans les grandes villes, à forte composante immigrée, puis petit à petit ailleurs, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Une part des restaurants rapides sont désormais des kebabs et depuis la fin des années 2010, on note une forte augmentation de ce type de restauration en Asie, notamment au Japon, et ça fait partie de la culture nocturne de partout, hein, puisque effectivement, on va manger au kebab au cours d'une soirée en ville pour des questions évidemment de coût, mais aussi d'ouverture tardive.
Oui, et puis c'est festif aussi.
Tout à fait. Et puis donc, en France, les kebabs constituent quand même 14% des sandwichs vendus, soit la moitié des sandwichs hors sandwich baguette. Oui, non, bah, attention.
Alors, est-ce que dans tes statistiques, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des kebabs qui pouvaient se faire dans les baguettes. Alors, on doit conclure que dans les 14%, ça ne compte pas les kebabs qui sont faits dans des
non,
baguettes.
Non, bah, ceux qui sont baguettes, hein, c'est les sandwichs baguettes. Donc, voilà, c'est...
Et même les kebabs baguettes, non
Non, ça marche pas. Donc voilà, les kebabs constituent donc 14% des sandwichs vendus, soit la moitié des hors sandwichs baguettes. 250 millions d'unités consommées chaque année.
Est-ce que ça compte les pizzas kebabs ?
Non plus.
C'est pénible.
Et on se renseigne.
Et les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Il faut être précis sur la dénomination.
Bon, Guillaume, info ou intox, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est pas très très propre dans les kebabs. Donc...
Et ben alors, en 2007, une étude de la DGCCRF, la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a fait une petite analyse et a mis au jour de nombreux cas de négligence sur l'hygiène en restauration rapide, jugée non conforme, notamment dans 61,5% des restaurants orientaux qui vendent des kebabs. Donc, quand même, pas fantastique.
Pas top, non.
Et sinon, une autre critique sur le kebab, c'est effectivement que c'est pas très light, donc c'est assez calorique.
Et oui, spontanément, on se dit, bon, le kebab, je sais que c'est à bannir, ou le kebab, c'est interdit, c'est gras, sucré, salé, avec ça, ça va, à force, vous allez grossir, puis mourir.
C'est ça, c'est terrible.
Et pourtant, pas besoin de vous l'interdire, même avec des frites, c'est ce qu'explique Sybille No, nutritionniste, sur
enfin,
le site du Nouvel Observateur.
C'est peut-être pas recommandé 3 fois par jour, on va dire que c'est la quantité.
J'y viens.
Pas de 5 fruits et légumes par jour. Hein.
Du pain, de la salade, des tomates, des oignons, de la viande grillée, une sauce plus ou moins grasse, sucrée ou piquante, une option frite. Voilà donc un plat comportant des glucides lents, des crudités, source de fibres, des protéines et du gras apporté par les sauces, la viande et les frites éventuellement. Plutôt complet donc. Alors maintenant, s'il y en a certains qui comptent leurs points Weight Watchers, c'est le moment. Hein, puisque environ 300 à 500 kilocalories pour le sandwich seul. L'apport calorique dépend de la viande utilisée, historiquement l'agneau, mais bon, beaucoup de choses, on l'a dit tout à l'heure, peuvent rentrer. Et puis, donc, l'addition calorique dépendra aussi de la sauce, mais surtout de la présence ou non des frites. Comptez 400 à 600 kilocalories supplémentaires avec. Et si en plus on rajoute la bière
c'est
ou le soda.
Des frites turques ou.
Oui, forcément. Et la bière ou le soda qui va bien, et pourquoi pas un petit dessert, on passe à une fourchette de 1000-1500 kilocalories pour le repas. Soit l'équivalent d'un fast-food très connu, menu avec boisson sucrée plus dessert. Voilà, contre 400 kilocalories, hein, on le rappelle, pour le sandwich grec tout seul. Alors voilà, le grec frite n'est pas à bannir, hein, comme aucun autre repas, quel qu'il soit, mais la première chose à faire, c'est de mastiquer, de mâcher, de prendre son temps pour le manger, et dès que la satiété est là, de s'arrêter de manger, même si on n'a pas fini.
Pour le savourer.
Ah oui, c'est ça. Sachez aussi diversifier, ne mangez pas un kebab tous les jours. Ah, j'aime ces conseils, hein. J'aime les conseils un peu ridicules, hein. Je vous l'ai dit il y a 15 jours dans cette presse masculine, donc là j'ai repris, hein. c'est pour
pourtant,
ça.
Je me rappelle ce fameux proverbe américain, « One kebab a day keeps the doctor away », pourtant très connu chez les enfants.
Bien, voilà. Donc il faut surtout pas manger quand on est rassasié. Donc ça c'est ce que dit Sybille dans.
Heureusement qu'elle a fait des études de nutritionniste pour dire ça.
Et oui, exactement.
Quand vous avez plus faim, ne mangez pas.
C'est ça.
Oui, mais c'est important quand même de le préciser.
Ouais, voilà. Quand vous avez faim, mangez.
À l'américaine.
Bon, alors sinon, on rigole, mais l'objet de ta chronique, c'était que voilà, le créateur, le fondateur du kebab, était mort récemment.
Il mangeait un kebab.
Il s'est étouffé avec une frite.
En même temps, il a mangé un par jour.
Il avait
oui, alors,
paix à son âme.
L'inventeur est décédé récemment, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs prétendants au titre d'inventeur du kebab. Le plus connu est Mehmet Egun, on en a parlé tout à l'heure, un Turc immigré en Allemagne. Bon, comme le deuxième, Kadir Nurman, dont on reparlera, qui lui a eu, selon la légende familiale, la bonne idée de fourrer un pain turc de fines tranches de viande agrémentée de salade et arrosée de sauce.
C'est ce qu'avait, blanche.
C'est ce qu'avait écrit l'AFP en 2010. Et donc, c'était à Berlin. Et en 1971, affirme l'agence. Entre-temps, la famille Egun est devenue richissime. RTL rapporte en 2011 qu'elle compte désormais plusieurs restaurants à Berlin, qu'elle a investi dans l'hôtellerie en fondant une chaîne d'hôtelière aussi à Antalya, en Turquie. Enfin, voilà. Mais en 2011, le microcosme du kebab a tremblé avec Mehmet Egun qui est désavoué, puisque l'association des fabricants turcs de kebab récompense Kadir Nurman pour avoir été le pionnier de la spécialité en 1972 à Berlin, près de la station de Zoogischer Garten. Et contrairement à la famille Egun, Kadir Nurman n'a pas fait fortune, il n'a jamais déposé de brevet, et à la fin de sa vie, il vivait avec une petite pension, c'est ce que rapporte l'édition suisse de 20 minutes. En 2011, il expliquait au Frankfurter Rundschau qu'il souhaitait à l'origine proposer des sandwichs à prix abordable et populariser la cuisine turque. Il avait également déclaré être heureux de voir des millions de personnes apprécier son plat devenu international. Alors le site de Berlin, la capitale mondiale de la spécialité hein, du kebab, rapporte en 2012 les revendications d'un troisième larron, Nevzat Salim. Ce dernier souhaite s'emparer du trône et affirme à son tour être le premier à avoir vendu des kebabs en Allemagne. Selon lui, c'était en 1969 dans la ville de Reutlingen, dans la région du Bade-Württemberg, à une centaine de kilomètres de Strasbourg. Il témoigne photo à l'appui, face à la caméra d'une télévision locale. Pour lui, il faut réécrire l'histoire de la spécialité. C'est donc une histoire à suivre.
Oh, alors, mais Berlin, c'est pas en Turquie.
Et non, rien, moi. C'est ça.
Donc c'est une spécialité turque qui n'est pas du tout historique et qui vient d'Allemagne et pas de Turquie.
Ben voilà.
En passant par la Grèce.
Mais qu'on ne sait pas qui l'a inventé.
C'était pour vous faire un petit peu le
point. Mais on en mange tous les jours.
Et on en mange 250 millions.
Est-ce que tu aimes ça?
Alors oui, pourquoi pas. Ça m'arrive dans les différents midis de la semaine de passer peut-être une fois par semaine.
C'est
ou
vrai
un
que
peu
c'est
plus.
Pratique.
C'est pratique, c'est pas mal. Bon, après, on pue un peu de la gueule l'après-midi, mais...
Avec des frites ou pas?
Ah oui, avec des frites, ouais. Ouais.
Sauce blanche?
Oui. Voilà.
Et le pain doit être de qualité aussi.
Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup.
Ah, moi, j'aime les galettes, par contre.
Ah non, moi, j'aime pas du tout les galettes. Je trouve que ça manque de consistance. Et justement, en parlant de ça, en faisant mes études à Tours, il y avait un super kebab qui lui faisait, donc là ça rejoint l'aspect indien, pakistanais, tout ça, où il servait le kebab dans un naan au fromage.
Ah oui,
Oui, pas dans un âne iant, hein, enfin voilà. Donc voilà, dans un âne.
C'est Anne-Marie qui fait brutal.
Alors ceci étant, j'ai vu peu de kebab en Inde.
Oui, mais voilà, mais bon, enfin en tous les cas, c'était vraiment très bon.
Et oui, parce
bon.
Que tu es allé en Inde.
Je suis allé en Inde.
Et tu n'as pas mangé de kebab.
Pas du tout. Ah. J'ai mangé des trucs étranges.
Ni de nan au fromage, a priori d'ailleurs.
C'est j'ai peut-être mangé du nan, mais pas au fromage. La chèvre aussi, sûrement. On m'a fait croire que c'était du mouton, mais j'y croyais pas.
Bon, ben voilà, c'était ce que je voulais vous...
Eh ben, c'était fort intéressant. Voilà.
Et après
merci
cette
beaucoup.
Petite minute masculine dont on voit que tout le monde a apprécié le côté culinaire, qu'est-ce que tu nous proposes?
Bien sûr, maintenant, c'est faire de la sauce blanche.
Et alors, on l'apprécie aussi. Guillaume,
nous proposes à écouter,
je me souviens même plus du titre. Mathieu Bogart.
Ok.
Jamais j'avais des pépettes. Si j'avais la fortune, je sortirais de ma cachette dans un nouveau costume. Que de nouvelles coutumes, je le jure sur ma tête. Si jamais j'étais pété thune, je serais une vedette. Si jamais j'avais un pécule, j'irais plus à l'école. Mon nom en majuscule, je ne me poserais plus de colle. Si jamais j'avais du pétrole, je vous achèterais. Je serais votre idole, alors je vous donnerais rendez-vous dans, rendez-vous dans, rendez-vous dans sandwich. Rendez-vous dans, rendez-vous dans, rendez-vous dans sandwich. L'amour tous les jours, ah quel festin, je vous le promets, vous mangerez tout ça à ma faim, quand j'aurai de la monnaie. Rendez-vous dans, rendez-vous dans, rendez-vous dans sandwich. Rendez-vous dans, rendez-vous dans, et dans ma bouche, je vous mâche, je vous lèche, je vous touche, dans mon sandwich, je vous niche, si j'étais riche. J'en avais plein les poches, j'aurais une tête d'affiche. Vous seriez tous moches, vous m'allez comme fétiche. Mais si j'étais pas si petit, dans votre fourchette de prix, j'ai vraiment l'appétit de vous y mettre aussi. Je vous le dis tout net, si j'avais pas Climiette, j'aurais pas tant l'envie d'une si bonne recette. Rendez-vous dans, rendez-vous dans.
Partie de cette actuelle Les Lui and Friends, et maintenant c'est Anne-Marie qui présente son Friends.
Oui, alors on dit de lui qu'il était froid et antipathique, alors je ne suis pas en train de vous décrire mon ami Luc, bien sûr. Étrange, il donnait à sa seringue un petit nom, Sister Ray, mais il était pourtant un monstre sacré du rock. Lou Reed fait désormais partie de la légende depuis le 27 octobre dernier, et c'est Luc qui va revenir sur la vie de cet incroyable artiste.
Un artiste ?
Artiste.
Un très grand artiste qui nous a quittés récemment.
T'as des problèmes auditifs, non ?
Non, t'as dit artiste. Ah. Moi, j'entends super bien. Peut-être parce qu'il bon, restait un petit peu de kebab de tout à l'heure, c'est pour ça.
Ou de sauce.
Ou, mais... j'irai pas jusque là. Hein. Moi, je veux pas que les gens interprètent les choses après de façon un petit peu, comment dire. Enfin bref.
Bref, tu vas nous parler, de Lou Reed.
Je vais vous parler de Lou Reed exactement.
Là, il m'a fourché.
Je vais vous parler de Lou Reed parce que Lou Reed donc est décédé. Tu l'as dit il y a quelques jours.
Le 27 octobre.
Exactement, le 27 octobre. Et avec Lou Reed, c'est finalement un des derniers dinosaures du rock'n'roll qui disparaît. Il en reste encore quelques-unes, mais bon, il reste plus qu'un Beatle et demi parce que Ringo, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Jimi Hendrix, Janis Joplin, tous ces gens-là sont malheureusement décédés assez jeunes.
Il n'était pas très vieux non plus.
Il avait 71 ans, il venait de se remettre d'une transplantation du foie. Ça veut dire qu'il aurait pu faire l'économie d'une greffe finalement. Il a tenu 3 mois et je pense que...
C'est-à-dire que vu ce que son précédent foie avait dû prendre...
je pense que le précédent foie avait pris du chargé commode, ouais, effectivement. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de sa seringue, donc de la drogue, de l'alcool. Faut savoir qu'il avait des penchants un peu étranges à tous les niveaux.
Il était anorexique aussi.
Il était beaucoup de choses, il était anorexique. Ses parents, quand ils ont découvert qu'il avait des tendances homosexuelles, lui ont fait, c'est ce qu'il faisait à l'époque, puisqu'à l'époque c'était considéré comme une maladie, et lui avait fait des électrochocs, une espèce de truc assez affreux qu'on met sur le cerveau, ce qui explique que la suite de sa carrière et de sa vie n'ait pas été totalement linéaire.
Enfin, il était bisexuel.
Il était bisexuel, ouais. Comme beaucoup de gens à l'époque, comme David Bowie, comme Andy Warhol, beaucoup de monde à cette époque, dans les années 60-70. Ça s'est vu aussi dans ses chansons, que ce soit avec le Velvet Underground ou plus tard quand il était en solo. Il a notamment, outre sa fameuse chanson Walk on the Wild Side, qui raconte l'histoire de...
L'une des plus connues, peut-être.
Ouais, probablement l'une des plus connues avec Venus in Furs ou Just a Perfect Day. Mais notamment dans Walk on the Wild Side, il raconte un peu les histoires de ces gens qui soient prostituées, soit transsexuels. Et il a abordé beaucoup de thèmes au niveau de la sexualité, de la drogue, de l'alcool dans ses chansons.
Oui, c'était assez noir quand même.
C'était assez noir, c'était assez subversif. Directement ou indirectement, il y a notamment la chanson Perfect Day où il raconte cette journée parfaite qu'il passe avec quelqu'un, aller au zoo, au cinéma, boire un coup. Il finit en disant c'est un jour parfait, tu m'aides à tenir le coup. Et au final, on se demande s'il parle de quelqu'un, d'une femme, d'un homme dont il est amoureux ou si c'est juste simplement l'héroïne. Et ça a d'ailleurs été repris ça fait partie de la BO du film Trainspotting qui raconte justement la vie de junkie écossais, et il y a cette scène où effectivement il a utilisé la chanson de Lou Reed, qui serait un peu tendance à penser qu'il parlait plutôt de la drogue que de sa copine, au final. Voilà, puis il y a Venus in Furs aussi, où il évoque notamment assez directement les relations sadomaso. Ouais, il n'y a pas que des jolies choses, hein, Lou Reed. Voilà, donc c'est...
Enfin, il était tourmenté, quoi.
Il était très tourmenté, il a eu une carrière à double vitesse puisqu'il y a eu la période avec le Velvet Underground, avec John Cale, avec tous ces gens-là. Ensuite, avec sa carrière solo,
ça n'a pas très bien marché. Enfin, pas autant.
Ça a marché. Il était encore en concert. D'ailleurs, il était en concert l'année dernière à un festival qui s'appelle Aluna au Vence en Ardèche. Il était encore sur scène. Il avait remplacé Cranberries d'ailleurs. C'est pas un extrême ballot finalement. D'une anorexique. Enfin, bref. Elle est un peu anorexique la chanson des Cranberries. Elle n'est pas que ça, non, effectivement. Il a eu effectivement toute cette. Et puis toute cette ambiguïté qu'il a toujours eu dans sa carrière, sur ce qu'on disait, sur les doubles langages un peu dans beaucoup de ses chansons. Et également Lou Reed, on peut pas non plus exclure tout ce qui s'est fait à cette période autour de la musique et autour de ce mouvement pop art, puisque notamment il y a Andy Warhol qui a dessiné la fameuse pochette c'est Berlin, je crois, la banane, la fameuse banane d'Andy Warhol.
Et voilà, on fait le lien avec le kebab. Hein.
Et la sauce blanche.
Du cru.
Une banane sauce blanche, je sais pas, c'est très bon finalement.
Et toi, Luc, pourquoi ça t'interpelle d'écouter ce type de musique ?
C'est du rock'n'roll d'abord.
Ouais.
J'aime beaucoup de sortes de musique et le rock'n'roll en particulier. Il y a cette noirceur aussi dans beaucoup de ce qui fait une noirceur, des choses qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la musique. On peut s'en faire un peu le vieux réac de base. Mais il y avait effectivement cette noirceur, cette sorte de subversion qui a plus aujourd'hui pour diverses raisons. Mais moi j'aime beaucoup ce côté-là et puis ce côté un peu rebelle, un peu rock'n'roll finalement. C'est vraiment le rock'n'roll dans la définition du rock'n'roll.
Et tellement rock'n'roll qu'il détestait finalement les interviews.
Oui,
c'était un peu son côté froid, antipathique.
Ouais, il était très timide.
Enfin, il détestait quand même les journalistes.
Il y a beaucoup de gens qui détestent les journalistes, en fait.
C'est vrai, mais du coup, les journalistes le rendaient aussi quelque part. C'est oui, un amour vache, quoi.
Je pense qu'il n'était pas à l'aise non plus. Enfin, si on voit quelques-uns, c'est pas quelqu'un qui était à l'aise devant un micro, enfin autre que pour chanter. Voilà, je pense qu'il c'est vraiment quelqu'un qui s'exprimait beaucoup. Beaucoup par sa musique, beaucoup par ses chansons. Voilà, c'est pareil. Il y avait David Bowie aussi qui était dans la même mouvance. Cette époque-là, ce côté pop art, tout ce mélange des genres aussi. Il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chanteur, on est musicien, on est artiste, peintre, sculpteur. Il n'y a plus, comme il y a eu ce mouvement dans les années 70 où tout le monde se mélangeait, faisait tout ensemble. Warhol qui faisait des pochettes de disques, qui en a fait pour plein de gens. Les mecs qui venaient au loft de Warhol pour faire des concerts. C'était ce New York des années 70 aussi qui a quand même révélé beaucoup de côtés, beaucoup de musiciens, beaucoup de musique qui font encore aujourd'hui, qui ont encore beaucoup de succès et dont on peut parler une fois par mois dans Rock'n'Roll Diaries.
Et on peut dire là, du coup, il est vraiment rentré dans la légende depuis le 27 septembre, octobre, pardon.
Il est mort un peu vieux, hein. Il est mort un peu vieux quand même.
Bah, c'est vrai que par rapport à tous ceux qui meurent à 27 ans. Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais là, il est rentré dans la légende. Dans 10, 20, 30 ans, on se souviendra encore de qui était Lou Reed.
Je sais pas parce que finalement, Lou Reed, c'est vrai, il était beaucoup moins grand public, que d'autres de l'époque, justement, par cette volonté de cette aversion pour les médias. Et du coup, il marquera peut-être moins qu'un David Bowie, par exemple. Donc, je ne sais pas. Je pense que oui, on se souviendra toujours de certaines chansons et de certains titres de Lou Reed. Mais après, je sais vraiment pas quelle trace il laissera dans l'histoire de la musique.
En même temps, tu parlais des arts plastiques tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui ne souhaitent pas interpréter ou expliquer leur œuvre et qui disent « confrontez-vous directement à mon œuvre pour comprendre ce que j'ai à dire sans que moi je vienne là surinterpréter ». Donc on est
chanson...
un peu dans cette démarche-là. En fait, tu dis « moi, mon mode d'expression, mon mode d'expression, c'est la chanson et puis je n'ai pas besoin ou je ne souhaite pas ».
Oui, mais tu as des façons de le dire. Et c'est vrai que lui, à chaque fois, il était un peu dans…
Il était sauvage. Hein. Voilà. Il était un peu sauvage.
Tu peux le dire plus gentiment.
Chez les plasticiens, par exemple, il y en a qui sont comme ça aussi, qui refusent complètement de communiquer…
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Qui disent, moi, je communique quand je vous livre une sculpture ou un.
Mais
ou
combien un marque l'histoire de l'art aussi Voilà.
C'est vrai que dans un monde qui est très. On médiatise tout, effectivement, quand on tombe sur un os comme Lou Reed, ça fait bizarre, c'est vrai.
Oui, après, je pense aussi que. Oui, je pense qu'ils
s'en fichent.
Ah oui, il a créé ce personnage hyper froid.
Oui, en plus.
Ah, là, il est plus que froid. Alors.
Il est froid complet.
6 pieds sous terre.
N'importe quoi.
Il est 6 pieds sous terre.
Et d'ailleurs, il est enterré où ?
Je crois que c'est à New York, mais je t'avoue que j'ai pas...
Pour ton pèlerinage, Anne-Marie, il faudra attendre un peu.
Alors, pas à San Francisco, parce que... il n'est pas à San Francisco.
Et est-ce qu'il y a un truc pour suivre, enfin, si on veut revoir son œuvre, si on veut relire un bouquin?
On
un
va chez Luc, on trouve tout.
Il y a un bouquin qui est sorti, il y a un petit moment de ça, qui rassemblait beaucoup d'écrits de Lou Reed, de chansons, de poèmes, qui est dispo en livre de poche. Il y a une bio aussi qui s'appelle Walk on the Wild Side, pardon, qui a été écrite il y a quelques années. Il y a une très bonne émission qui a été faite par cette radio.
Et qu'on a réécouté la semaine dernière. Ouais, mais qu'on peut toujours réécouter sur quarantefm.org,
qui vous donne tous les bons conseils pour écouter. Et puis voilà, il y a des choses qu'on peut lire aussi, qui peuvent aussi aider à comprendre le pourquoi du comment de la musique de Lou Reed, notamment les bouquins du prince Von Sacher. Voilà, celui qui a Von Sacher, je crois que c'est ça.
Oui, qui a inventé
exactement,
et a donné
voilà.
son nom éponyme
aux sadomasochisme, exactement.
Un petit peu de mal à le dire, Lucas.
Von Sacher.
Ta langue a fourché.
Ouais, c'est ça.
Sur le sadomasochisme, mais c'est dur à dire aussi.
C'est vrai que c'est pas facile à dire.
C'est parce c'est que plus facile à faire qu'à dire.
Ouh, alors. Écoute, Anne-Marie.
Bon, j'ai toujours pas fini les 50 nuances degrés. Hein,
voilà.
Mais non, mais notamment ça, la chanson Venus in Furs est directement liée aux œuvres au sadomasochisme. T'as vu, je l'ai bien dit cette fois.
Oui. Et Alain, dis-moi, tu écoutais Lou Reed?
À part le titre phare qu'il nous a décrit tout à l'heure, moi j'avais une petite question, savoir. Tu dis que c'était quelqu'un de très solitaire vis-à-vis de ses homologues rockers. Comment il se comportait? Est-ce qu'il avait des amis dans ce milieu-là? Est-ce qu'il faisait des concerts avec eux? Est-ce que des duos, des trios?
Alors, musicalement, je vais parler. après le reste.
Oui, on a compris qu'il avait une sexualité un peu débridée.
Non, mais c'est en plus c'est ça. Non, après, il a beaucoup fait des trucs en solo. Enfin, d'abord avec le Velvet. Et puis ensuite avec Nico, qui était actrice, chanteuse. top model, muse d'Andy Warhol. Donc voilà. Non, après ils ont pas, mais c'était pas trop du genre à l'époque à s'échanger, à faire des trucs. Ah, viens, je t'invite sur mon concert, tu viens au mien. Mais après, ils étaient assez proches de Bowie, effectivement. Mais bon, ils ont pas fait des centaines de trucs ensemble. Non, après la personne dont il a été le plus proche, après oui, effectivement, c'était John Cale, mais les deux se sont fâchés à mort. Enfin, bref, ça a été un peu compliqué.
Mais... loup solitaire.
Ouais, c'était un peu loup solitaire. Il avait sa seringue souvent avec lui, ça lui suffisait. C'est ça.
Eh ben merci en tout cas Luc pour cette chronique fort intéressante.
De rien.
Alors, tu vas nous faire écouter, j'imagine, Lou Reed.
Exactement, je vais vous faire écouter Lou Reed et donc cette chanson qui s'appelle Just a Perfect Day, dont je vous parlais tout à l'heure, où il parle de cette journée parfaite avec quelqu'un qui l'accompagne ou une substance qui lui aide à passer le temps.
On écoute ça.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Elle
et lui. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette actuelle et lui and friends. La troisième à passer dans l'ordre que nous avons fait tout à l'heure. C'est Anne-Marie qui va nous parler d'un petit Gaulois à moustache.
Exactement, partout à Tis. Je vous l'assure, je ne vais pas faire ma chronique X en vous parlant comme Astérix et ses Amix. Mais une chose...
Enfin, le défi aurait pu être pas mal. Hein.
Oui, mais je pense que les auditeurs, à la fin, ils en auraient eu marre. Et puis moi aussi, donc... Mais une chose est sûre, à l'occasion de la sortie du 35e album mettant en scène légendaires irréductibles gaulois, résistant à l'envahisseur romain, je vais revenir sur une saga qui dure depuis déjà plus d'un quart de siècle.
Autant que ça ?
Eh oui ! On a peut-être tendance à l'oublier, mais Astérix fait partie de la catégorie des seniors. Sorti le 24 octobre, le dernier album, Astérix chez les Pictes, tombe à pic, si je puis le dire ainsi, puisque le petit Gaulois aux moustaches jaunes a soufflé ses 54 bougies le 29 octobre.
Ça va faire plaisir aux gens qui ont 54 ans, ça.
Il ne les fait pas quand même.
Senior, hein. C'est non, à partir de 50 ans, Aurélie.
Ah bah voilà.
Donc, c'est bon. Désolée, mais c'est comme ça.
En... Tu t'en rapproches ?
Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Je vous remercie.
Alors ça, généralement, il ne le fait pas aux femmes. Ça
pas de tir à balle réelle, donc. Hein.
Faut pas le faire aux femmes.
D'habitude, c'est toi qui fais les vieilles allusions à Aurélie.
En non, off. Pas du et tout. Du coup, les auditeurs ne le savent pas.
Ouais. Et eux, ils sont... et elle n'est pas méchante. Non, mais...
Je savais pas qu'il fallait venir avec son gilet pare-balles à cette émission.
Bon, alors Astérix, ne nous laissons pas déconcentrer.
Pour
Astérix,
Astérix a officiellement été créé le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Les deux compères doivent à l'époque assurer la partie bande dessinée d'un nouveau périodique pour les jeunes, nommé Pilote. En quelques heures, Goscinny et Uderzo créent un village. Comme personnage principal, Uderzo voit un Gaulois très musclé, alors que Goscinny penche plutôt pour un nabo au physique amusant mais malin. Si Goscinny obtient un gain de cause, Uderzo adjoint cependant au petit Gaulois un gaillard bien en chair, livreur de menhir.
Obélisque.
Exactement.
Mais ça fait un moment, je crois, depuis le dernier album, il s'en est passé du temps.
Effectivement. Alors, comme vous le savez, René Goscinny... Oui, alors parce que, juste hein, pour décrire un petit peu la situation, Guillaume... On a plein la bouche, il est
c'est
complètement
paumé. Mais on préfère voilà. Ne plus l'entendre de toute façon.
Donc Aurélie essaye de me poser les questions.
Aurélie assure,
il lutte avec la sauce blanche.
On veut pas savoir.
Il est au coin.
Alors, comme tu le disais, Aurélie, il y a eu du chemin qui a été parcouru. Effectivement, comme vous le savez, René Goscinny est mort en 1977.
Encore un.
Eh oui. Albert Uderzo a donc dû poursuivre seul la série avant de passer la main cette année. Alors, les fans d'Astérix et d'Obélix attendaient donc avec impatience de constater si oui ou non ils allaient retrouver leur petit guerrier préféré avec son comparse amateur de sangliers, comme ils les ont toujours connus. Eh bien, 8 ans après le dernier album, et malgré le changement du duo d'auteurs, les personnages n'ont pas pris une ride. Pour ce 35e album, c'est Jean-Yves Ferry qui s'est occupé des bulles et Didier Conrad du dessin. Le choix de ce nouveau...
Conrad.
Ok. Le choix de ce nouveau tandem n'a pas été laissé au hasard. Jean-Yves Ferry a été retenu en 2011 parmi 16 autres candidats. Le choix de Didier Conrad.
Ferry, c'est déjà quand même un scénariste de BD qui est assez confirmé.
Conrad aussi.
Oui, et quand, ouais. Maintenant, il y avait aussi d'autres prétendants.
Bah, par exemple, quand ça a été le cas de quand Maurice a lâché la main, a cédé la main pour Lucky Luke, c'est HD qui a repris le flambeau, était peut-être pas la même carrure que qu'a aujourd'hui Ferry et Conrad aujourd'hui.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux hommes n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc là, c'était une première. Et d'ailleurs, ils ont dû signer une clause de confidentialité pour éviter que ne filtre à l'extérieur la moindre information sur le nouvel album.
Et oui, à ce sujet d'ailleurs, moi j'ai entendu que les libraires avaient une pénalité de 5000 euros par album ouvert de leur cellophane avant la date J du grand lancement.
Et c'est vrai que 5000, c'est énorme. Donc on
se dit, pour pas que ça fuite. Il fallait vraiment pas les ouvrir avant. Il faut garder le secret.
Alors en tout cas, l'âme d'Astérix est restée intacte dans ce nouvel opus. Tous les ingrédients qui ont fait le succès de la BD ont été savamment mélangés pour un résultat savoureux avec les traditionnels jeux de mots, les comiques de répétition, les anachronismes. En racontant un voyage en Écosse, Ferry et Conrad renouent avec la traduction des albums qui ont fait la réputation de la série dans les années 70, comme Astérix en Hispanie ou Astérix en Corse.
Et donc Astérix chez les Pictes, ça donne quoi ?
Alors, l'histoire relativement simple, comme toujours, met en scène, et alors là, écoutez bien, Mac Olock, un Picte, donc. Ah et voilà, c'est ça qu'il fallait, merci. Voilà. Bon, avec 3 secondes de retard, mais c'est pas grave.
Bah, c'est bien qu'on comprenne.
J'ai le cerf-volant.
Donc, l'histoire met en scène Mac Olock, un Picte, chassé de ses terres par un autre Picte,
attention.
Mac Abbé.
Oh
Macbeth ?
On y revient.
Il a un peu cette tête aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est le méchant.
Et qui va se retrouver dans le village de nos fameux Gaulois. Héroïques, Astérix et Obélix vont ramener Mac Olock en Pictie, comme dit Obélix, traduction en Écosse. Vous vous en doutez, le trio va vivre des aventures périlleuses et sauver de justesse la belle Camomilla, des mains du méchant Maccabée. Camomilla, fille adoptive de Mac 2, et donc future reine, est en réalité la promise de Mac Olock. Alors, je n'ai pas forcément un œil très expert sur la BD, mais honnêtement, le fond et la forme ont été respectés. Le coup de crayon précis de Didier Conrad et l'écriture enjouée de Jean-Yves Ferry n'ont pas trahi le savoir-faire de leurs prédécesseurs. D'ailleurs, les deux artistes ont été félicités par Albert Uderzo. Alors, je le cite, « Bravo à Jean-Yves Ferry et Didier Conrad pour avoir eu le courage et le talent de réaliser cet album d'Astérix. Grâce à eux, le village gaulois que nous avons créé avec mon ami René peut continuer à vivre de nouvelles aventures pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. »
Mon ami René, aucun rapport avec le mari de Céline Dion.
Non, d'ailleurs, je n'ai pas dit René.
René.
Bah, mon mari, c'est mon ami.
C'est mon mari René. Bon, de son côté, la fille de Goscinny a aussi un petit mot gentil pour le duo Ferry-Conrad. Je la cite. « La mémoire de René Goscinny n'est jamais très loin quand on anime Astérix. Elle était épaulée jusqu'ici par l'immense talent d'Albert Uderzo. Aujourd'hui, alors qu'Albert a veillé sur ce premier album émancipé de ses créateurs, je voudrais que mon père soit fier des auteurs auxquels nous avons confié le célèbre Gaulois, fier et heureux autant que je le suis. » Alors, pour Ferry et Conrad, on
c'est
sent...
Oui. Et puis, on aime bien les citations dans cette émission.
Oui, bah là, c'est pas Wikipédia, là.
Tant d'habitude, c'est pas une fusée, Ariane. Ariane Goscinny, pardon. Ariane Goscinny, c'est la fille.
Oh là là.
Alors, donc pour Ferry et Conrad, on sent qu'ils se sont vite pris au jeu. Alors, je cite d'ailleurs Jean-Yves Ferry. Pour écrire un album d'Astérix, il suffit de partir de la scène du banquet, d'imaginer la case qui précède, et ainsi de suite sur 44 planches pour arriver naturellement au début. Rien de plus facile. En gros, voilà, ça finit toujours par ils sont autour de la table, ils mangent, ils fêtent.
Voilà. Et ils attachent le barde.
Et non, qu'il n'est pas attaché.
Et non. Toi, tu n'as pas lu Astérix, mais je vais te passer la BD.
Chez les Pictes, on attend que tu nous le prêtes.
Chez les Pictes, il ne finit pas. Non.
C'est vrai qu'ils ont dérogé à la règle cette fois-ci. Ouais. Alors, pour son ami Didier Conrad.
Nul cet album.
Astérix, c'est un mythe. Merci. Dessiner Astérix est pour moi une aventure extraordinaire. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Alors, j'ai pu voir effectivement sur le net que certains internautes étaient parfois un petit peu déçus du scénario qui était trop léger. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, je crois, Guillaume.
Oui, je suis assez d'accord. Mais bon, c'est pas mal.
Oui. En même temps, les scénarios d'Astérix n'a jamais été non plus...
Non, mais il est vrai que c'est peut-être un petit peu moins travaillé que pour les autres BD. C'est vrai. Disons que là, on résume, c'est ce que je vous ai fait en deux phrases, l'histoire. Oui. Mais...
C'est un peu pour ça qu'il fallait laisser le cellophane, parce que je pense que sinon, effectivement, il n'y aurait plus beaucoup d'histoires.
Est-ce qu'il y a les pirates ?
Par contre, oui, il y a les pirates, les dessins sont très beaux, le monstre du Loch Ness est très beau.
Faut pas le dire.
Là, tu as payé une amende aussi.
5000 euros.
Voilà, Guillaume,
je vais pouvoir partir comme ça, loin.
En Écosse ?
Ou en Turquie, manger des kebabs. Alors, sincèrement, pour ma part, moi, j'ai pris...
Il n'y en a pas, c'est à Berlin.
Ah oui, c'est vrai. Ou en Inde. Non, en Inde, il n'y en a pas. Bon, j'irai sur la tombe de Louride, alors.
Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Moi, sincèrement, j'ai pris un réel plaisir à lire Astérix chez les Pictes. Et c'est vrai qu'avec l'humour, le second degré, ça marche toujours, de toute façon.
Ouais, mais vu
effectivement les chiffres, je crois que t'es pas la seule à avoir sauté sur ce nouvel album.
C'est vrai. Alors, au niveau des ventes, carton plein pour les dernières aventures d'Astérix. Hein, pour preuve, lefigaro.fr titre son article ainsi « Astérix chez les Pictes, le succès de l'année ». Lefigaro.fr révèle que l'album du petit mais irréductible gaulois bat déjà des records. Et cette fois, ce n'est pas grâce à de la potion magique. Le 35e album des aventures d'Astérix et Obélix est non seulement un succès critique, mais aussi un succès éditorial. Les éditions Albert René se frottent les mains, Astérix chez les Pictes est un tel succès que les réimpressions d'urgence sont prévues. La FNAC, de son côté, a annoncé avoir vendu en une seule journée 20 000 exemplaires. C'était le jour de la sortie de l'album, ce qui est plutôt énorme.
Mais je suis allé acheter mon exemplaire dans notre nouvelle librairie mandoise.
Ah, mais c'est très bien, Guillaume. On te félicite. Tu auras un bon point.
Très bien.
La lorgnette.
C'est ça.
Alors, mais le petit gaulois ne
sait... Moi, je ne l'ai pas acheté.
Mais non, parce que je vais te le prêter.
Ouais.
Alors, le petit gaulois ne séduit pas seulement les Français. Astérix est un personnage également apprécié en Europe et aussi dans le monde entier. Astérix chez les Pictes a été ainsi publié dans 15 pays et traduit dans 23 langues. Au total, 5 millions d'exemplaires de cet album ont été imprimés, dont 2 millions dédiés à la France. Donc, vous l'avez compris, pas suffisant pour répondre à l'engouement. C'est pourtant le plus gros tirage de l'année.
Mais alors, c'est vrai que, tant qu'on est sur la question économique, moi, j'ai entendu dire que finalement, il y avait eu ce transfert d'auteur parce que les premiers albums vont commencer très vite à arriver dans le domaine public. Et donc, pour pouvoir faire perdurer finalement les droits sur ces personnages, il faut continuer à entretenir le système avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux albums pour faire durer le système. Voilà, donc il y a aussi, j'imagine, derrière des enjeux économiques pour les éditions Albert René et puis j'imagine, les descendants des créateurs aussi.
Tout à fait.
Et puis en plus, les albums marchent.
Même les anciens, mais il y a souvent des rééditions d'ailleurs, des nouvelles versions des premiers albums.
Et bien justement, avec Tintin, Astérix est la plus grande success story de la BD franco-belge. Aujourd'hui, les 34 aventures parues totalisent 352 millions d'albums vendus dans le monde. En 107 langues et dialectes, y compris le mandarin, le singalais, parlé au Sri Lanka et le groenlandais. Voilà, si vous avez envie de partir là-bas...
Ne pas confondre avec le groenlandais.
Non. Avec un tel succès, les produits dérivés se multiplient, jeux de société, jeux de cartes, jeux vidéo, puzzles, figurines. Sans oublier la création du parc Astérix le 30 avril 1989. Pionnier français, je vais y arriver, des parcs à thème. Il est le deuxième parc d'attractions français. En 2012, avec 1 723 000 visiteurs, le parc arrive en deuxième position du classement français devançant le Futuroscope, mais restant derrière le complexe Disneyland Paris.
Bon, et puis,
Et notamment son attraction Pirates des Caraïbes.
Oui, avec le petit problème, qui est dans l'actualité,
le gros problème aujourd'hui, hein, puisque comme vous le savez, nous avons enregistré cette émission il y a une semaine, et donc forcément, voilà. C'était dans l'actualité ce jour-là.
Merci Guillaume, il se moquait de nous en disant qu'on allait se planter,
j'explique pour nos auditeurs, voilà.
Alors, en plus de ce merchandising, on a effectivement plusieurs adaptations cinématographiques.
Effectivement, donc 4 opus sont déjà sortis au ciné. Astérix Obélix contre César, sorti en 99. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002. Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, sorti en 2002.
Merveilleux exercice de diction pour tout le monde.
Pas surtout pour moi.
Tout le monde pourra le reprendre.
Alors, 3 acteurs ont joué le rôle d'Astérix. Christian Clavier, Clovis Cornillà et Édouard Hubert. Quant à Obélix, c'est le franco-belge-russe, hein, Gérard Depardieu, qui l'a interprété. Personnellement, mon préféré reste celui, évidemment, d'Alain Chabat. Alors, je dis évidemment parce qu'en fait, au box-office, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est plus de 14 500 000 entrées. Alors que pour le premier, c'était plus de 8 millions, je vais y arriver, 700 000 entrées.
On peut tromper 1000 fois... On peut tromper une fois mille personnes. Non.
La petite dédicace pour la cité de la peur. Hein.
Tu me perturbes, Luc. Bon, alors le troisième, c'est plus de, ce sont plus de 6 millions, voilà, de 6 millions 800 000 entrées. Et le dernier, le flop, hein, le quatrième.
C'est pas terrible. Hein,
eh ben non, c'est 3 800 000 entrées. Et là, tu vois, je l'ai dit correctement.
Non, mais c'est vrai que celui de Chabat était bourré d'anecdotes.
Exceptionnel. Et justement, il a même fait.
Un casting extraordinaire.
Oui. Il a une Cléopâtre fantastique.
Ah bah ça,
la chute de rein, voilà.
surtout.
Les yeux clignotent encore.
Et donc effectivement, ce film a même fait l'unanimité hein, auprès de la critique. Alors Les Inrock à l'époque disait, contrairement à son prédécesseur dégénéré, Mission Cléopâtre est un film pour les grands et les impropres et impropres à l'export. Ni les gamins ni les ricains ne sont en mesure de pleinement goûter à la profusion de gags.
Il y avait même Zinedine Zidane.
Non, ça c'est dans le troisième ça.
Non, si si.
Non.
C'est dans... Non.
C'est dans Mission Cléopâtre.
Il y est pas non.
À la fin,
révisité classique. Pardon. Luc.
Bah moi personnellement, le plus grand classique c'est Astérix et Cléopâtre, mais le dessin animé.
Ah. Il y a effectivement tous ces dessins animés hein, que M6 généralement nous rediffuse.
À son Noël.
Au période de Noël, à chaque fois on y a droit.
Quand même la grande scène du pudding à l'arsenic ou du lion de Cléopâtre. Excusez-moi. Oh,
moi j'aime bien quand elle dresse César aussi. Quand elle arrive à la maison.
Oh, tu l'as fait bien, Aurélie.
J'adore.
Aurélie fait bien la mégère.
Oui, ouais, mais pour que ça porte vraiment, il faut être sur un char tiré par 200 personnes. Voilà, et avoir la robe qui va bien.
Bon, bah écoute, un jour, si on sait pas quoi faire, Aurélie, on va te préparer ça.
On va proposer ce thème-là pour le prochain 48e de rue. Comme ça, tu pourras faire le tour des boulevards sur un char.
Oui, bien sûr. Alors là, c'est le grand fantasme. Hein. Moi,
avec
justement,
300 esclaves qui
avant qu'on fasse le cirque amande, est-ce que tu peux nous dire si on va adapter au cinéma
cet opus? Alors, d'après lemonde.fr, l'adaptation au cinéma d'Astérix chez les Pictes est pour l'instant renvoyée au calende grec, hein, le temps que l'adaptation en dessin animé 3D du Domaine des Dieux, le 17e de la série, par Alexandre Astier et Louis Clichy, prévu pour 2014, voit le jour.
C'est déjà de bon augure. On entend Alexandre Astier, on se dit ouh.
Pourquoi pas. Alors, mais si vous êtes passionné ou juste intéressé, vous pouvez vous rendre à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, voir l'exposition Astérix à la BNF, qui a ouvert ses portes depuis le 16 octobre et qui s'accompagne d'un catalogue Astérix de A à Z, un événement qui permet de revenir à l'origine du mythe.
Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour finir sur...
Eh bien, restons en Écosse avec Texas et sa chanson The Conversation.
Moi, je préfère sa chanteuse. Time to have a conversation. It's never what you want to hear. Funny how much words can hurt you, even after all these years. I wanna make an observation about how you tear your world apart. And every
time I try to tell you, you're blaming on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation. It's bringing you this misery. How they're hurting you, more than they're deserting you. It's so, so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Where was you in your head? Say the heart you break, you mistake for me instead. For me instead. How they're hurting you, what are they deserting you? It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. They're hurting you, more than they're deserting you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation.
As-tu?
Elle
et lui.
Bonjour à tous, nous voilà de retour dans...
Oui, c'est pour ceux...
Vous pas pour...
pour ceux à qui on n'aurait pas dit bonjour au début.
Eh ben...
C'est bien de leur redire au milieu, je suis d'accord.
On n'est jamais trop poli.
on est de retour
dans...
Oui, voilà,
toi,
c'est hein, clair. C'est... Alors aujourd'hui, c'est ma fête. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, voilà. On continue avec les
bon autres... Bon appétit si vous êtes à table.
Voilà, si vous êtes à table.
Bonne année.
Surtout, on a parlé de...
Il fait beau.
Il fait chaud.
Ok, bon. Et justement, comme il fait chaud, je crois, Alain, que tu reviens de Barcelone et que tu nous as préparé une petite chronique pendant que tu étais là-bas.
T'es pas très bronzé.
Non.
C'est vrai.
Mais en même temps, bon, on est quand même mois de novembre, même si...
Cette émission est enregistrée.
Est enregistrée.
Ah, non. Cette émission a été enregistrée en mai 2012.
Alain, on t'écoute, tu voulais nous parler de Barcelone.
Louride n'est pas encore mort, mais on est devin.
Ah, c'est ça qui est bon.
Oui, alors une petite surprise sur Barcelone, puisque je vais vous parler d'un temple emblématique de la ville de Barcelone, puisque, en espérant que vous m'écouterez religieusement pour ce sujet, puisqu'il s'agit de l'édification d'une œuvre grandiose, la Sagrada Familia à Barcelone.
Alors là, je vais vous dire, mais je vais vous raconter un peu les secrets de fabrication.
Toute la journée. Une espèce de pression qui est retombée d'un coup.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a Anne-Marie et Aurélie qui ont le sourire qui est revenu.
Il y a eu une décompression.
Toute la journée.
On va parler foot,
voilà,
ça va être
toute la journée, il m'a dit qu'il voulait parler du Barça. Il m'a envoyé des noms de joueurs de foot en me disant « tu connais un tel, tu connais un tel ». Évidemment, j'en connaissais aucun, puisque hormis David Beckham, qui est dans Elle, c'est ce que je lui ai dit.
Mais qui joue au Real de Madrid.
Non, je ne sais pas, c'est juste dommage. Qu'il y a sa photo dans Elle, c'est tout. C'est ma seule source sur le foot, donc je préfère vraiment qu'on parle de la Sagrada Familia.
Et oui, je lui ai dit que je cherchais le nom du gardien, mais bon, c'est difficile à la Sagrada Familia de retrouver le nom du gardien. Après, je lui ai parlé de Messi, mais le passé, c'était pas le même.
Comme quoi, j'ai de la culture. Messi, je me suis dit, ah, Lionel Messi, ça me parle vaguement.
Donc, je vais vous parler
c'est Pedro, le gardien
grandiose.
De la Sagrada Familia.
Oui.
C'est Pedro.
C'est pas vrai. C'est vrai ?
Mais c'est pas Pedro Almodóvar. Non, c'est pas le même.
Bon, allez, on avance, on
cette
avance.
Cette chronique sérieuse.
Donc, tout d'abord... Quand vous pénétrez sur Barcelone, vous êtes attiré et peut-être même hypnotisé par un chantier, pas n'importe lequel. Il s'agit de la naissance d'une véritable œuvre d'art, le temple expiatoire de la Sainte Famille, plus communément appelé en espagnol Sagrada Familia. En effet, la ville de Barcelone est magnifiée par cette cathédrale du 3e millénaire qui s'impose de par son allure atypique et même parfois décriée. D'inspiration néo-gothique, elle défie les lois de la physique en remplaçant les arcs-boutants traditionnellement situés à l'extérieur de la cathédrale. Lorsque vous pouvez le voir sur n'importe quelle cathédrale, des arcs-boutants qui viennent conforter cet édifice.
Sur la photo, là, mais comme on est à la radio, ça, c'est vachement bien.
C'est pas très visuel à la radio. Regardez, là, on le voit bien. Mais vous pouvez le découvrir sur tout site internet. En tapant Sagrada Familia, vous verrez un petit peu l'édifice terminé ou Wikipédia. Oui, où j'ai imprimé toutes les pages de Wikipédia si vous avez des questions.
Oh, il savait qu'il ferait plaisir à Guillaume.
Et c'est une spéciale dédicace.
Non, mais je fais que mes chroniques sur Wikipédia.
Mais
non,
tu écris Wikipédia, Guillaume. C'est ça.
Il écrit avant de faire la chronique.
Voilà.
Et donc, ces arcs-boutants, en fait, ils sont remplacés. Enfin, les arcs-boutants servent à contrebalancer la poussée des voûtes intérieures, bien sûr. Et des piliers intérieurs en forme de tronc d'arbre et qui se ramifient en de multiples branches remplacent justement ces arcs-boutants.
Je crois qu'Anne-Marie veut de la pizza, en fait.
Ça va être un petit peu technique. Des nœuds ellipsoïdaux aux intersections des ramifications des colonnes supportent les forces de pression de la voûte. Ces nœuds ellipsoïdaux, si vous voulez, c'est ce que l'on retrouve un petit peu sur les troncs d'arbres où se nichent souvent des oiseaux, des volatiles nocturnes. Ainsi, lorsque vous pénétrez dans l'abside de la Sagrada Familia, vous avez l'impression d'être dans une forêt de palmiers. On peut le voir d'ailleurs sur une photo que vous pourrez découvrir également sur Internet.
Et nous, on la voit, elle est très très belle.
Et donc, les termisants de ces colonnes reprennent justement la forme des feuilles de palmier pour constituer une voûte extraordinaire. Et l'aspect plutôt lourd et austère de la façade de la Nativité à l'extérieur tranche avec une abside et des nefs lumineuses où les magnifiques vitraux parsèment le sol, les murs et les colonnes de taches multicolores à l'effet psychédélique. Ouais. Pour reprendre un petit peu le rock'n'roll de
c'est
Luc.
Un peu ça.
Ouais.
Gaudi et écouter Jefferson Airplane.
Ouais, ça se pourrait. Je ne sais pas si c'est la même époque.
Pas trop. Non, c'est un peu plus tard. Ouais.
Et ces taches multicolores, en fait, elles se modifient suivant l'heure de la journée, puisque avec les reflets du soleil sur chacune des façades, nous n'avons pas la même luminosité qui pénètre cette cathédrale. Nous avons pas mal de travaux aussi à l'extérieur du studio.
On nous construit.
Je ne pense pas que ça soit Sagrada.
Il n'y a pas de construction de Sagrada Familia.
Ça bricole, hein, ça bricole. Hein.
Alors, Gaudi a fait rentrer la lumière dans la Sagrada Familia, mais s'est attaché aussi à l'acoustique du lieu en plaçant les chœurs sur les gradinages en hauteur et en installant quatre orgues à chaque angle. L'édifice est constitué de 18 tours qui sont voués aux 12 apôtres, aux 4 évangélistes, à la Vierge Marie et à Jésus-Christ.
Mais elles ne sont pas toutes construites.
Elles ne sont pas toutes terminées. Notamment, les plus hautes ne sont pas encore édifiées. Ils sont en train de construire la tour de la Vierge Marie. Et ensuite, ils s'attelleront à la construction de celle de Jésus-Christ, qui sera la plus haute et qui atteindra à peu près le sommet des grues actuelles.
Ou pas.
Ou pas, si les financements ne suivent pas, mais bon.
On peut.
Oui. Elle culminera d'ailleurs cette tour à 170 mètres. Elle sera surmontée par une croix monumentale de 15 mètres, suivant la volonté de Gaudi. Donc la Sagrada Familia représente l'aboutissement des œuvres de Gaudi que l'on peut découvrir en déambulant dans Barcelone. Gaudi avait de solides connaissances liturgiques sur lesquelles il a pu appuyer ses réflexions pour définir une nouvelle architecture religieuse. En découvrant sa demeure située dans le parc Güell, on a une impression de besoin de recueillement dans cet habitat qui se matérialise par un décor minimaliste et l'omniprésence d'objets religieux.
Je pense qu'on va voir un type traverser le mur là, qui est à côté de la radio, d'entendre creuser, taper.
Je ne sais pas s'il attaque une banque. Mais
je ne sais pas ce qu'il faut. Ça doit être ça. Par contre, il faut leur dire que c'est une pharmacie, ce n'est pas une banque, le truc à côté. Bon.
Ouais. Avec la Sagrada Familia, Gaudi a su, au travers de ce nouveau style architectural, exprimer toute la quintessence de son savoir. Gaudi a repris ces éléments de la nature, que ce soit dans le monde végétal ou animal, pour créer la structure de l'édifice. Il l'a ensuite décoré de scènes et de motifs
De motifs.
C'est l'heure de la digestion.
Il a fait beaucoup de motifs, en fait.
Oui, ça. Il a fait pas mal de motifs, c'est sûr. Hein, par rapport à l'œuvre initiale, cela est très différent. Il a amélioré son style, puisqu'il a débuté la cathédrale à 31 ans. Donc, c'est relativement jeune. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution de son œuvre, et puis il y a eu des moments où les financements n'étaient pas là, donc il a pu réfléchir sur la suite à donner. Donc, il a modifié incessamment cette.
C'est pour ça qu'elle est bizarre, en fait. C'est parce qu'en fait,
je
vais faire ça. Non, là, finalement.
C'est un peu ça, mais je vais continuer la suite. Vous allez voir qu'il y a quand même des éléments qui font qu'il y a une certaine cohérence dans l'architecture. Et elle est d'ailleurs ornée parfois de manière surabondante, notamment sur la façade de la Nativité. C'est la partie qui a été construite du vivant de Gaudi, d'ailleurs, cette façade. Les façades, elles sont en trois parties. Enfin, il y a trois façades à Sera Familia. Il y a la façade de la Nativité qui a été construite de 1891 à 1936. Nous avons la façade de la Passion qui a été construite à partir de 1954 et la façade de la Gloire qui est la façade par laquelle on pénètre dans la cathédrale. Enfin, on pénétrera parce que pour l'instant, elle n'est pas du tout... Elle n'est pas du tout achevée, elle est en cours de construction depuis 2002. Sachant que son œuvre ne serait pas achevée avant sa mort, Gaudi a fait édifier la façade de la Nativité, la plus richement ornée, en premier, afin d'obliger ses successeurs à conserver les proportions du monument et le style qui lui est propre. Érigée à partir de 1882, la fin de la construction de la Sagrada Familia se situe aux alentours de 2026, si les financements sont là. Et 2026 sonnerait comme un symbole au centenaire de la mort de Gaudi. Mais nul doute que ce qui fait la majesté du monument et son côté attractif réside dans la durée de la construction. Voir une cathédrale d'une telle splendeur prendre jour sous les yeux du promeneur, solitaire, procure une réelle satisfaction. En mangeant un kebab même, le promeneur solitaire.
Pas beaucoup de kebab autour de la Sagrada Familia.
Pas trop, non. C'est pas le style.
Bocadillo de Ramon.
Mais c'est vrai que c'est un chantier qu'on visite en plus.
Mm. Oui, tout à fait.
C'est risqué
et périlleux. On le visite, il est en construction, comme on entend ici les disqueuses, là, c'est pareil, on entend les marteaux piqueurs. Et c'est un peu ce qui est surprenant, c'est-à-dire on visite un lieu de culte et en même temps on entend des bruits de chantier. C'est ce qui attire aussi le promeneur solitaire. À mon avis, les travaux se poursuivront au-delà de l'achèvement de la construction, étant donné que la complexité de l'édifice la rend particulièrement vulnérable et qu'une restauration sera nécessaire, ne serait-ce que pour les parties séculaires. C'est-à-dire qu'elle aura déjà plus de 100 ans, la cathédrale, et dès qu'elle sera terminée, déjà il y a des petits...
C'est un éternel recommencement.
Oui. Il y a des motifs de décoration qui sont en train de tomber, donc il va falloir faire des reprises.
Et en même temps, enfin, plus de 100 ans pour construire une cathédrale, c'est juste qu'on ne se rappelle plus. Les cathédrales françaises, elles ont été construites sur plusieurs siècles également.
C'est vrai.
Saint-Paul, la cathédrale de Londres, c'était beaucoup plus court, ça a été une soixantaine d'années, un truc comme ça.
Elle est quand même particulièrement moche.
C'est pas faux. C'est vrai aussi.
Mais... Après, ils n'avaient pas non plus le matériel qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'ils mettaient énormément de temps.
Ouais.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas le même type non plus de construction. C'est-à-dire qu'à l'époque, on construisait en pierre. Donc là, il y a une partie de la Sagrada Familia qui est aussi construite en pierre. Mais il y a une partie qui est construite en béton.
Ils ont inventé le béton après.
Merde, c'est vachement mieux.
En fer et en béton. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et ça permet une architecture beaucoup plus moderne. C'est vraiment tout autre.
Oui, on n'obtiendrait pas, tu penses, la finesse et la profusion des décors qu'on a là si on était en taille de pierre, en fait.
Complètement, oui. Oui. Les sculpteurs ne pourraient pas recréer ça.
On l'aurait peut-être, mais il serait chier grave, quand même.
Et puis...
Imagine le...
Et puis, on a une
structure. Il faut que vous imaginiez Luc mimer la taille de pierre.
J'essaie de tailler des pierres.
Quand on voit la webcam
je crois qu'il va falloir y passer. Parce que là...
c'est le problème, c'est le micro, la caméra là, qui ne marche pas très bien. Vous me voyez ? Moi ? Maman ? Maman ? Pardon.
Puis la difficulté avec la pierre, c'est d'avoir des. Parce qu'il y a une certaine finesse dans les lignes que l'on n'arriverait pas à avoir avec la pierre, avec le veinage de la pierre, parce que là, on est dans un secteur homogène avec un ferraillage et du béton qui est tout à fait homogène, mais avec de la pierre, on aurait des difficultés, voire même des écroulements de la structure. Et pour conclure, je dirais que si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas découvrir cette œuvre monumentale, qui est la Sagrada Familia, vous pouvez toujours visiter dans un style plus classique, mais non dénué d'intérêt, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende. Elle est, elle aussi, un chantier pour une cure de jouvence. Et je pense qu'elle mérite bien du haut de ses 500 ans triomphants sur la ville de Mende une petite visite.
Pas tout à fait le même style, par contre.
Non, mais plus classique, mais elle est aussi intéressante à visiter.
Ouais. Surtout quand de monter effectivement dans les clochers, on se rend compte.
Comme on monte sur les tours de la Sagrada Familia.
C'est ça. Voilà. Il y a un truc qui est marrant à Sagrada, c'est que Gaudi, il n'a pas vraiment laissé de plan, en fait.
Il a laissé des espèces
de plans de débauche, mais en fait...
Il a laissé des plans, mais ce qu'il y a, c'est que pendant la guerre d'Espagne en 1936, les républicains ont brûlé tous ses plans.
Et puis bon, il avait son truc en tête et il était à peu près le seul à savoir exactement ce qu'il voulait.
Il a surtout fait des maquettes.
Ouais, c'était pas des trucs super...
On peut retrouver des maquettes et notamment une ingéniosité de sa part, c'est-à-dire que... Il a fait un système de petites ficelles avec des petits sacs de sable qui suspendaient aux ficelles. Et les sacs de sable représentaient le poids des motifs, des éléments qu'il allait placer sur la cathédrale. Et en inversant la structure des ficelles et des poids des sacs de sable, ça faisait la construction de la Sagrada Familia.
Oui, on le regarde dans un miroir et on voit la cathédrale à l'envers.
Voilà, tout à fait.
Ou à l'endroit, comme on veut.
C'est vraiment ingénieux,
ça. En fait, ça permet de... quand on veut expliquer les forces en architecture, c'est un petit schéma qui, du coup, est très pratique, quoi.
Oui. Et il a expérimenté sur le parc Güell et sur d'autres monuments. D'ailleurs, il a dit que sans ses essais, il n'aurait jamais pu réaliser cette grande œuvre.
Et d'ailleurs, si je m'abuse, il est mort accidentellement, en plus.
Oui, il a été renversé par un tram, oui, c'est ça. C'est ça.
Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts, ces garçons.
À manger un kebab, ça. Je crois pas.
Faisais pas attention.
Écoutons le dernier album de Lou Reed.
Ouais.
Bien, mais c'était une belle évocation de
Barcelone.
De Barcelone.
Oui, et puis ça nous fait penser aussi à nos vacances. Ça fait toujours plaisir d'entendre un petit peu d'Espagne. Comme
c'est pas très loin d'ici. On peut effectivement très facilement aller faire une petite balade.
Et sinon, il y a le Nou Camp.
Et oui, notre temple, le temple du football, le Nou Camp.
Absolument.
Qui a visité.
Ah, quand même, ils nous l'ont placé.
Mais effectivement, il y a Montjuïc aussi.
Montjuïc, le stade olympique.
Voilà.
La Dream Team de Barcelone en 92.
Le port olympique.
Et puis c'est la patrie de la naissance de l'urbanisme contemporain avec Ildefonso Cerdà qui a théorisé la question de l'urbanisme à Barcelone avec un plan carré. On a retrouvé ensuite dans un certain nombre de villes européennes. Et c'est vraiment l'inventeur, enfin en tous les cas dans l'histoire de l'urbanisme, c'est comme ça qu'on définit la naissance de la matière urbanisme avec Cerdà.
Puis les Ramblas.
Et oui.
Les bars. Ramblas.
Les tapas.
Les bars à tapas.
Les bars ou même sans tapas.
Et la sangria pour Aurélie.
Puisqu'on arrive dans les bars, la sangria, les tapas, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Je vous propose d'écouter Shakira avec une reprise Francis Cabrel. J'ai oublié le titre d'ailleurs.
Je l'aime à mourir.
Je l'aime à mourir, c'est ça.
Ayer solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre de este cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. d'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de cette nuit. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi.
Actu.
Elle
et lui. Et on se retrouve pour la cinquième partie de cet actuel et lui and friends. Alors on a eu une coupure musicale qui a été mise à profit, pour tout vous dire, elle a duré très longtemps hein, pour nous au moment de l'enregistrement, puisqu'il y a eu une petite préparation que Corélie nous avait amenée dans son cabas. Et donc, voilà, il y a eu des...
Mon cabas à roulettes, bien sûr, à carreaux avec lequel je vais faire le marché.
J'en ai un, moi.
Mais tout à fait.
Mais je ne... Enfin, voilà.
Juste avant ton bridge.
Voilà. Ça, c'est pour lutter contre mon Alzheimer. Je maintiens mes neurones en activité.
Tu as raison.
Aurélie, l'âge, c'est celui qu'il y a dans la tête.
C'est ça. D'accord. C'est un état d'esprit.
Bon.
Okay. Vous voyez, on a aussi rediscuté de ma sortie de tout à l'heure, hein, qui a été
fortement appréciée.
Voilà, fortement appréciée.
Et donc, on peut vous annoncer que c'est la dernière émission
de Guillaume.
De Guillaume.
Voilà. Bien, bon. Alors de quoi vas-tu nous parler? Parce que crois que nous, on a déjà on a un spécimen dans notre tasse. Hein.
Tu débordes un peu, Guillaume.
Enfin, toi ou ton gâteau.
Effectivement, après les cupcakes, les cheesecakes, les whoopies, les cookies et autres pâtisseries anglo-saxonnes, préparez-vous à fondre pour les mug cakes. Des gâteaux tout droit venus des États-Unis à la préparation aussi simple que rapide et à dévorer dans un mug, une tasse en anglais, d'où le nom. Donc le concept, un gâteau réalisé et cuit dans une tasse, le tout en moins de 5 minutes chrono. La preuve, voilà, j'ai fait nos 6 tasses en effectivement moins de 5 minutes chrono. Bon, j'ai un peu triché, j'avais préparé la pâte avant.
Bon alors, d'où vient cette idée de faire et de cuire surtout un gâteau dans cette tasse?
Alors, nul ne le sait si cette délicieuse invention est le fruit du génie d'un étudiant fauché, d'un homme d'affaires affamé ou d'une mère de famille débordée, mais le temps de préparation record de ce gâteau individuel pourrait suffire à détrôner dans le cœur des gourmands les traditionnels entremets pour 6 ou 8 personnes. Bon, que celle ou celui qui n'a jamais eu envie d'un gâteau au chocolat ou d'un cookie, là maintenant, alors qu'il est presque minuit, que les placards sont vides, se dénonce immédiatement. J'ai une solution pour pallier à ce manque chronique. Donc le mug cake certifié délicieux et en 5 minutes chrono. Mais cette cuisine express n'est pas pour autant l'occasion de brider son imagination culinaire. Vous pouvez dans le mug cake mettre des épices, du caramel, des fruits rouges. On détourne le cheesecake, on le savoure en cookie, on y ajoute de la crème de marron. et hop, au four à micro-ondes.
Moi, je dirais hop, hop, hop.
Tout à fait. Hop, hop, hop. Donc, le premier hop au four à micro-ondes, le deuxième hop dans la bouche et le troisième hop, miam.
Et ça marche avec la sauce blanche ou pas?
Non, je bah, je crois pas, non.
Donc, c'est un concept de gâteau express.
C'est turc aussi?
Alors non, c'est pas turc.
On t'a dit que c'était américain.
Et alors?
Donc, montre en main, 5 minutes suffisent pour réaliser un mug cake, temps de cuisson compris. Une cuisson qui dépasse quant à elle rarement les 60 secondes, qui se fait au micro-ondes et directement dans la tasse. D'ailleurs, spéciale dédicace à Ludo, en plus d'être rapide à préparer, cette pâtisserie ne demande que peu d'ustensiles. Une cuillère pour le dosage, une fourchette pour mélanger, une tasse. Et vous l'aurez tous bien compris, pas de vaisselle ou très peu.
Et donc on peut varier les plaisirs.
Effectivement, parce que en fait, simplicité et rapidité ne riment pas forcément avec monotonie. Donc le mug cake se réinvente à l'infini au gré de ses envies, de sa gourmandise ou plus prosaïquement du contenu de ses placards. Du cookie au brownie, en passant par le crumble, le carrot cake, le fondant, le mug cake s'adapte au goût de chacun. Preuve en est le livre Mug Cake prêt en 2 minutes au micro-ondes, publié dans la collection Les Petits Plats des éditions Marabout. Il regroupe une trentaine de recettes proposées par Lynn Kudsen, une auteure danoise passionnée de pâtisserie et une référence en matière de mug cake.
Elle n'est pas américaine?
Non, elle n'est pas américaine. Elle est danoise.
Et bon, donc tu as testé de nombreuses recettes.
Et oui, vous le savez, vos chroniqueurs habituels paient toujours de leur personne avant. Donc, au cours d'un goûter improvisé, j'ai eu l'occasion de tester sur Anne-Marie ce nouveau coup de cœur. Du coup, je lui ai fait un mug cake au caramel au beurre salé dont je vous ai noté la recette. Donc, 30 g de beurre, soit une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe, un œuf. On mélange 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de crème liquide, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 4 cuillères à soupe de farine, une demi-cuillère à café de levure et une cuillère à soupe de caramel au beurre salé, vous savez, en préparation en pot type salidou. On fait fondre le beurre, ensuite on rajoute les autres ingrédients, on remue bien et ensuite 1 minute au micro-ondes et le tour est joué.
Et donc c'est un ratable, je suppose. Quelques conseils quand même pour le réussir?
Donc il faut surtout bien remuer pour ne pas en oublier au fond de la tasse. Alors Anne-Marie rigole parce que justement tout à l'heure j'ai mal remué et donc elle a mangé de la farine. Voilà, c'est un peu le problème. Il faut...
En même temps,
il
faut dire qu'elle est difficile. Hein.
Oui, de la farine avec du chocolat autour et rien d'autre, c'était pas terrible.
C'était un peu trop sec pour Anne-Marie.
Voilà, donc sinon il est moins gonflé, il y aura des morceaux de farine, c'est l'inconvénient. Il ne faut également jamais mettre de gros morceaux.
Non, pas les gros morceaux.
Sinon, c'est trop lourd.
C'est dur à mastiquer après.
Ils resteront en bas du gâteau et ce dernier ne pourra plus gonfler.
L'intérêt, c'est qu'il soit bien gonflé.
On a perdu tout le monde. Hein.
Houston en a un problème.
Alors ensuite, chaque four à micro-ondes est différent. Chaque micro-ondes a sa propre vie et la recette peut avoir des résultats.
La durée de chauffe est différente.
Voilà, moi, exactement.
Moi, j'ai eu un micro-ondes qui faisait du stop.
J'aime bien ce concept d'âme au micro-ondes. Je trouve.
Mais ta micro-ondes à l'autre, ça chauffe pas de la même
façon. La puissance n'est pas la même.
Donc,
t'as jamais eu des conversations philosophiques avec ton micro-ondes? Ouais, très souvent avec le mien.
Bon, ensuite, et arrêtez de rigoler, justement, le mug cake se mange vite, il sèche sinon. Et du coup, c'est pas très bon. Ensuite, c'est affaire à plusieurs. La preuve, vous voyez, ça n'engendre pas la mélancolie. Quand on peut partager avec ses proches, c'est quand même plus rigolo.
C'est mieux qu'un solitaire.
Voilà. Vous deviez me demander quel était mon préféré.
Et alors ton préféré parmi tous ces mug cakes, c'est lequel?
Et bien un de mes duos préférés, c'est tout simplement le chocolat crème de marron et le résultat, c'est à tomber tout simplement. Donc à la place du caramel de tout à l'heure, on pose une grosse cuillère à soupe de crème de marron et on mélange pas trop, comme ça on retrouve sa crème de marron. Vous avez un mug, vous avez un micro-ondes, et vous avez quelques ingrédients. Bon, vous avez un mug, vous avez un micro-ondes.
On a un mug, on a un micro-ondes.
Et on fait quoi?
Et après?
quelques ingrédients basiques.
Ah, ça, on a
pas. Et vous pouvez préparer des mug cakes sans problème.
Bon. Et en salé, c'est possible aussi ?
Oui, c'est possible aussi. Par exemple, au...
D'ailleurs, type... t'as dit au beurre salé.
Type cake. du type cake au poisson fumé, vous mettez à la place du chocolat, bien sûr. Du saumon fumé. Alors, je recommence la recette.
Mais je pense que saumon chocolat, ça peut être très bon.
Ça peut être très bon. Mais là, en l'occurrence, donc, du saumon fumé, un œuf, de l'huile d'olive, du lait, 2 cuillères à soupe bombées de farine, 1 cuillère à café, 1/2 cuillère à café de levure. Vous mélangez tout dans la tasse au micro-ondes.
Et
bref,
on bat le kebab là, je crois.
Hein, là, on bat le...
Et si vous avez compris cette recette, ne prenez pas la route.
Facile, rapide et délicieux, ils satisferont tout.
Mais alors comment on fait là, ton truc là? Parce qu'on n'a pas compris.
Bah oui, mais si t'écoutais, je te rigolais.
Mais dis-toi ton truc là, voilà. tu mélanges, tu mélanges.
Tu touilles.
Je prends mes 2 tranches de saumon, je les mets dans mon œuf.
Non, tu mets ton œuf, ton lait, ton huile d'olive, ta farine, ta levure. Et c'est seulement à la fin, cette fois, que tu vas mettre tes petits morceaux de saumon fumé. Ensuite, tu cuis 1 minute. En surveillant la cuisson.
Mais tu fouettes au milieu.
Voilà.
Enfin... Mais alors, c'est toujours la même base ou...
Oui, c'est toujours la même base si tu veux faire un cake. Après, si tu veux faire un cheesecake, un carrot cake ou un cookie ou un space cake, tu vas rajouter d'autres choses.
Non, mais on ne fait pas de space cake. Non, mais c'est quoi cette idée là?
Ludo demandait. Au cas où.
Ça aurait pu être Ludo, je vous rassure. Hein.
Non, mais c'est quoi ces a priori, là, comme ça? On balance sur des gens qui sont absents, qui peuvent même pas se défendre. Oh là voilà. Là,
et donc, pour rester là-dedans, et puis pour que vous puissiez apprécier, je vous propose la chanson.
Ah, non, mais sinon, enfin, je trouve quand même que c'est excellent, parce qu'on en a pas parlé, mais on a tous mangé quand même autour de la table.
Tout fini.
Et c'est vrai, n'est-ce pas, Alain?
Ah oui, avec ça, on tient plusieurs heures. Hein.
Non, mais c'est vrai, c'est rapide, c'est efficace, c'est bon.
Oui.
C'est vrai que le truc vite fait, bien fait,
bien fait, oui.
Mais oui, oui. Non, mais c'est ça, quand on a envie d'un truc sucré pour, voilà. Devant la télé.
Pour soi, égoïstement.
C'est ça, oui. Non, mais c'est justement.
Préparer en un rien de temps, c'est vrai que c'est pratique.
Non, mais c'est ça, c'est vraiment le. Tiens, t'as pas forcément envie de bouffer un truc.
Oui, de
tout
cuisiner
prêt,
une demi-heure.
Ou de te prendre la tête, effectivement.
Faire un gâteau.
Sans écoute, voilà. Une bière.
Voilà.
Tu remplaces les chips par un
mug cake.
Voilà, pendant la pub.
Est-ce qu'on peut faire des mug cakes aux chips?
Ah, peut-être, si je les mets.
Popcorn.
Mais oui, popcorn, oui, ça c'est sûr. Parce que vous avez vu, là, je vous avais rajouté des
petits trucs qui
croquaient. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la pâte, quoi.
Oui, c'est que t'as... En plus, t'es libre. C'est ça qui est bien. C'est que tu pars d'une base, mais après, tu mets ce que tu veux.
C'est vrai que tu es libre dans ta tête. Un peu comme ton micro-ondes fait sa vie, tu es libre avec ton map cake.
C'est une vraie liberté, moi, je trouve.
C'est ça, c'est...
De manger ce que tu veux alors
exactement,
que tu veux.
Exactement, mais voilà. C'est très bien. Et puis surtout si tu as des amis qui viennent à l'improvise, comme tu le disais,
alors,
c'est pratique.
Est-ce qu'on peut en manger un par jour?
Je voudrais peut-être rappeler la
nutritionniste de Guillaume.
Non, mais faut reconnaître qu'en fait, bon, c'est quand même des aliments assez riches, mais finalement... Mais
on a l'impression que c'est léger.
Parce que à chaque fois ils disent c'est pour un, mais moi à chaque fois que je m'en suis servi, j'en ai fait pour 2 en fait avec les proportions pour 1, parce que ça déborde.
Quand il y en a pour 1, il y en a pour 2.
Et voilà. Et puis là en l'occurrence, vous avez vu que ça a quand même gonflé. J'en ai mis qu'un tout petit peu dans le fond de la tasse et en fait ça
s'expand beaucoup.
Oui. Ça s'expand.
Parce qu'il y a beaucoup de levure peut-être.
Il y a de la levure, oui. Ben c'est le but, c'est que ça.
C'est la magie de la chimie.
T'en mets beaucoup dedans.
Une demi cuillère à café.
Ouais, ça fait quand même beaucoup par rapport à un gâteau où parfois tu mets juste un demi sachet ou
voilà
ou un
sur
sachet.
3 cuillères bombées de farine.
Ouais, c'est quand même
2 cuillères à soupe par contre. Donc oui, c'est quand même pas
c'est
vrai.
Quand même important. Et c'est ça
qui est le... D'où l'importance de la levure, c'est vrai.
Et ça a un aspect plutôt sympathique.
Oui, ça dépend un peu du mug à la base.
Hein, le mug que... transparent, c'est pas terrible, effectivement.
Bah, si, c'est pas mal.
Oui, ça donne un peu un côté un petit peu artistique.
Ce côté débordal, là, c'est pas mal.
Oui. C'est généreux.
Oui. Oui.
Ce petit côté chanteur.
Ça s'expand, comme dirait Guillaume.
Il y a de l'idée.
Voilà. Bon, je vous propose pour accompagner tout ça, Catherine Deneuve et la chanson de Peau d'âne. Une petite dédicace aussi pour Ludo qui adore toujours quand on programme des choses impromptues comme ça. Donc c'est la chanson de la quand elle prépare le cake d'amour dans Peau d'âne.
Puis c'est un petit clin d'œil aussi à ses 70 ans.
Eh oui.
À Ludo ?
Non, non, à Catherine Deneuve. À Catherine Deneuve, puisque je crois que c'était le 22 octobre.
Voilà. C'est vrai qu'on avait dit qu'on arrêtait les blagues sur l'âge.
Oui, mais elle nous écoute pas, alors ça compte pas.
Et puis bon, elle s'en va. En référence au titre de son dernier film.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Qu'il soit du matin, qu'il soit du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît. Sucre parsemé et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. De glisser à présent pour votre fiancé, un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose, laissez le plat.
Elle
et lui. Bon ben voilà, c'est la fin de cette
déjà
émission. Et oui, donc on est obligé de couper Caroline.
Bah oui.
Là, tant pis. Hein.
On n'a plus de temps.
On n'a plus de temps.
On a trop
désolé.
Elle reviendra.
Il y a trop de choses à dire.
Elle reviendra pour une prochaine fois. Alors, ben, on vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne quinzaine hein, même. Puisque,
allez, okay. Un bon mois de novembre. Hein,
à bientôt.
Voilà.
À l'année prochaine.
Oui, à une prochaine. Merci à nos friends d'être venus avec nous.
Merci beaucoup.
À vous.
Merci Guillaume.
Et puis à très bientôt.
Sur Marie, Aurélie.
On te invitera, toi, Luc.
Voilà, donc ben voilà, c'était une des nouvelles de nos émissions. Donc rediffusée, Anne-Marie, parce que c'est toi qui sais les horaires.
Le mardi à 18h11 et le jeudi à 12h30.
Je voudrais voilà dédier cette émission à tous les vendeurs de kebab.
Oh bah sinon, bonne digestion. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
Lui. D'actuel.
Et lui. Oh.